France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Lumière ce soir sur une pièce de théâtre et sur les débats qu'elle soulève sur la pornographie, sur la violence masculine, sur la violence tout court d'ailleurs, sur le consentement, sur la liberté, sur ce que c'est que de mettre en scène et de représenter. Cette pièce, elle s'intitule « Chien, chien au pluriel » et elle est mise en scène par Lorraine de Sagazan au Théâtre des Bouffes du Nord du 29 janvier au 15 février. Une pièce qui sera en tournée en France à la fin de l'année. Au seuil de cette pièce, une affaire réelle et sordide, l'affaire dit French Bukkake, du nom du site internet détenu par Pascal Olitreau. Une affaire qui démarre en octobre 2020 avec plusieurs mises en examen pour viol, proxénétisme et traite d'êtres humains. Et un procès qui se poursuit aujourd'hui. Alors une prière avant d'entamer cette émission, une prière et une recommandation. Éloignez peut-être les enfants, les adolescents, les oreilles les plus délicates, car des propos peut-être choquants risquent d'être tenus. Et quelques questions pour ouvrir ce débat. Le porno peut-il être féministe? Peut-il être éthique? Peut-il intégrer la notion de consentement? Ou bien est-ce structurellement impossible? Trois invités ce soir pour en discuter, pour en débattre même, je crois. Lorraine de Sagazan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes metteuse en scène, je le disais, plasticienne. Votre scène Chien est en ce moment même au Théâtre des Bouffes du Nord. À vos côtés, Lorraine Questio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate au barreau de Paris, avocate de plusieurs des parties civiles au procès French Bukkake. À vos côtés également, Fleur Thierry, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes journaliste pour le site porno érotique Union, spécialiste de la sexualité. Votre livre est intitulé « Au cœur du féminin sacré » qui est apparu en octobre dernier aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous trois d'être présentes ce soir dans Question du soir.
Comment ces dizaines de jeunes femmes ont-elles été recrutées? Selon elles, c'était à chaque fois avec un même stratagème. Axelle Vercoutre, une jeune femme de 22 ans, aux photos splendides et à la vie de rêve entre la Belgique et Miami, prend contact avec elle sur les réseaux sociaux.
J'ai reçu une demande d'amis sur Facebook. Et je me suis pas méfiée. J'avais vraiment aucune raison de refuser. En plus, c'était une fille.
En réalité, derrière ce profil se cache un homme. Julien D., un père de famille, éducateur à Reims. Derrière son masque de jeune femme, il échange avec ses proies pendant des semaines et prétend gagner beaucoup d'argent en se prostituant et en tournant du porno.
Extrait d'un complément d'enquête qui date de 2022. Peut-être pour commencer, Lorraine de Sagazan, rappelez-nous ce qu'est cette affaire French Bukkake et pourquoi elle est à la source de la pièce que vous mettez en scène actuellement.
C'est une affaire que j'ai découverte par voie de presse en faisant des recherches sur les insuffisances de la justice institutionnelle, qui est une recherche que je mène depuis quelques années, 5 ans maintenant. Et j'ai découvert des vidéos qui m'ont particulièrement marquée parce qu'elles avaient, à mon sens, plus à voir avec des scènes de guerre que des scènes de sexe. Et en effet, cette plateforme French Bukkake que vous nommez, donc probablement quand même une particularité, on en parlera certainement à l'intérieur de l'industrie pornographique, parce que ça me semble quand même une plateforme, une activité particulièrement paroxystique, met en scène, autorise à mon sens par l'activation d'une vidéo, donc la question d'une œuvre de l'esprit, comme c'est parfois défendu, de la fiction, met en scène ce qui apparaît plus comme étant des viols et une destruction des corps avec des biais largement sexiste, raciste, et pose la question aussi des conditions de travail, plus généralement en fait, de la sexualisation tarifée, enfin qui sont pas forcément des questions auxquelles j'ai des réponses d'ailleurs définitives, mais en tout cas qui soulèvent vraiment l'existence comme telle du porno souvent hétéro, mainstream, majoritaire, qui par ailleurs conditionne énormément le désir et participe à ce qui est la culture du viol par quoi nous sommes toutes et tous à peu près conditionnés.
C'est une affaire absolument sordide, glauque, mais qui révèle peut-être le fonctionnement d'une industrie en général. Lorraine Questio, ces scènes de guerre, qu'est-ce qu'elles montrent? Qu'est-ce qu'elles décrivent justement? Quelle est la réalité de ces scènes auxquelles ont été confrontés des centaines de milliers d'hommes et d'adolescents en France?
Oui, c'est très important de rappeler que les violences sexuelles, les actes de torture qui sont perpétrés contre ces femmes l'ont réellement été. Hein. Absolument rien n'est simulé. C'est-à-dire que les centaines de pénétrations sexuelles, triple pénétration, les injures, les humiliations ont réellement été perpétrées contre ces femmes. Donc ce n'est absolument pas une mise en scène. Donc c'est des femmes qui aujourd'hui sont traumatisées, profondément traumatisées d'avoir subi ces violences. Et c'est important de dire que cette industrie pornographique, ou en tout cas cette affaire French Bukkake, n'est pas en marge de l'industrie pornographique française. Les acteurs, donc les acteurs au sens propre, c'est-à-dire les acteurs, les hommes qui venaient sur ces plateaux violer ces femmes dans le cadre de ces tournages, tout comme les réalisateurs, puisqu'ils sont nombreux, qui ont participé à l'organisation de ces tournages et qui parfois eux-mêmes ont violé ces femmes, puisque évidemment, très régulièrement, on passe de la caméra au set, et donc on est à la fois celui qui organise, mais aussi celui qui viole.
Au set, c'est-à-dire l'espace de la mise en scène.
C'est-à-dire à l'endroit où on viole ces femmes, sur les scènes de crime. Eh bien, ces hommes appartiennent à l'industrie pornographique. Ils n'en sont pas à l'extérieur. Ils se connaissent tous. Les acteurs qui ont tourné dans l'affaire French Bukkake ont tourné pour Dorcel, pour Jackie et Michel, pour Nikita Bellucci, et tout le monde se connaît, et tout le monde a tourné les uns pour les autres. Pascal Olitreau est l'œuvre de Pascal Olitreau, qui est profondément raciste, classiste, déshumanisante, est connue de l'entièreté de l'industrie pornographique. Tout le monde se connaît, il a travaillé pour l'ensemble de ces structures, donc personne n'ignorait. Personne de l'industrie pornographique n'a jamais dénoncer le racisme, la haine des femmes, la violence, ces actes de torture. Et c'est pour ça que je pense que cette affaire permet vraisemblablement de poser réellement la question de la complicité généralisée de l'industrie entière avec les pratiques de Pascal Olitreau et de ses complices.
Vous êtes d'accord, Fleur Thierry, sur l'idée selon laquelle, au fond, ce n'est pas l'exception, cette affaire French Bukkake, c'est quelque chose de beaucoup plus structurel, de beaucoup plus répandu, de pratiquement majoritaire dans l'industrie pornographique contemporaine.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, Pascal Oppé, il était un paria de toute l'industrie pornographique. Personne ne voulait travailler avec lui. Dorcel...
Lorraine Questiot fait nom de la tête.
Non, c'est faux si vous voulez, mais Dorcel avait publié une, je crois, ou deux vidéos dans lesquelles il apparaissait. C'était quelque chose qu'il avait acheté. Mais...
Dorcel, c'est un grand producteur pornographique.
Peut-être qu'il travaillait un peu avec Arès, mais sur la méthodologie qui est glaçante, et vous avez raison de toute façon de dénoncer au théâtre, cette méthodologie-là, qui comportait des viols, un premier viol avant de les faire entrer dans les parcours de pornographie, c'est tout à fait marginal dans la profession, et c'est absolument pas comme ça qu'étaient fait la plupart des rentrées dans les parcours plus classiques de pornographie. Dorcel, principalement,
travaille... C'est quoi, alors, pardonnez-moi, un point d'entrée classique dans la pornographie?
Alors, un point d'entrée classique, alors je vais aussi parler d'une pornographie française des années 2010, ça pouvait être à cette époque-là le libertinage, c'est-à-dire des femmes qui avaient déjà des expériences en club libertin et qui soit montraient déjà des petites photos, des petites vidéos sur les sites internet, c'était par exemple Jackie et Michel recrutaient aussi un peu comme ça à l'époque, permettaient à cette plateforme-là de publier des photos de soi un peu exhib. Et si les filles le souhaitaient, elles pouvaient faire des scènes. Il y avait cette porte d'entrée-là. Maintenant, on était, et là vous avez raison, sur des secteurs qui sont non réglementés. Et donc, il y avait des dérives énormes. Il y avait aussi des cris de l'industrie pour réglementer ce secteur-là et pour que assainir et faire en sorte que tout soit fait de façon propre.
Je pense que c'est totalement... Enfin, je suis obligée d'intervenir, c'est totalement faux. Il y a des vidéos de French Bukkake, donc de clientes, de femmes que je défends, qui ont été diffusées sur les sites Dorcel. Et qu'il a fallu, par la voie de courrier d'avocat, obtenir le retrait. Et donc, il travaillait avec Mathieu Loret. Donc, Mathieu Loret étant le complice de Pascal Olitreau. Et en fait, il faut bien voir que ce qui est compliqué, c'est recruter les femmes. Parce qu'en fait, évidemment que les femmes ne veulent pas subir des actes de torture et être humiliées et avoir les images de ces humiliations misogynes et racistes à vie en ligne. Effectivement, il y a des femmes, ça prend des années pour qu'elles puissent le dire, mais je pense que personne, évidemment, ne souhaite cela. Et donc, il faut trouver des personnes suffisamment vulnérables pour entre guillemets, consentir, si on peut appeler ça un consentement, mais je pense que ça fait partie de vos questions, à se retrouver dans ce système. Et en fait, on trouvait si peu de femmes qui étaient prêtes à le faire qu'il a fallu utiliser des stratégies stratégies et des méthodes de coercition, de manipulation et de recrutement pour arriver à abonder l'industrie pornographique qui manquait en fait de victimes pour pouvoir produire et nourrir la demande. Et c'est pour ça que Pascal Olitrou et Mathieu Loret étaient continuaient à avoir des liens renforcés avec l'ensemble de l'industrie française puisqu'ils étaient des pourvoyeurs de femmes. Après les avoir violées, déshumanisées, ils les orientaient vers des collègues et des complices que sont d'autres réalisateurs bien connus et qui, eux, pour le coup, ne sont absolument pas marginalisés et qui, pour l'instant, continuent, pour certains d'entre eux, à avoir des contacts avec l'industrie pornographique dont vous prêtez, à laquelle vous prêtez tant de soins et d'égards, en tout cas.
Alors justement, on voit bien que la notion qui est au cœur de vos échanges, c'est la notion de consentement. Au fond, si le point d'entrée c'est le libertinage, ça laisse entendre que ces actrices souhaitent peut-être se retrouver dans ce type de film pornographique. À l'inverse, si elles sont objets de chantage, de manipulation, de, j'allais dire presque parfois de violence pour entrer dans ces films, on comprend que la notion de consentement n'existe pas. Lorraine de Sagazan, comment est-ce que sur scène vous avez représenté justement ces violences, cette idée même de consentement, comment elle devient filigrane de votre mise en scène?
Alors, la question de la forme, elle est essentielle puisque précisément, moi, je suis pas documentariste, je ne suis pas journaliste, je mène pas une enquête, en tout cas scientifique, je suis pas avocate. Donc, en fait, c'est très important pour moi de réfléchir à la place que je peux avoir pour m'emparer d'un tel sujet et essayer de ne pas redoubler la violence en réassignant les femmes victimes à une position qui serait toujours la même.
Donc ça, il faut édulcorer cette violence sur scène ?
Non, pas édulcorer, je crois pas, parce que et principalement dans cette affaire-là. Je crois que comme je pense que ces violences sont invisibilisées et que par ailleurs, peut-être paradoxalement, les images font écran. Mm-hmm. C'est-à-dire, je crois très fort qu'aujourd'hui, les images, même les plus violentes, hein, celles de French Bukkake, donc qui sont pour certaines vraiment, et le spectacle commence avec une scène où 160 hommes arrivent dans une décharge et je le rappelle, une seule femme est présente, les hommes sont tous cagoulés et la femme a le visage découvert. Donc en fait, il y a même là, une question scientifique, comment le corps humain fait pour recevoir une telle charge physique et ce qui ressemble vraiment donc pour moi à une scène de guerre, c'est au contraire de mettre les gens en face d'une réalité, mais de les laisser décider de ce qu'ils et elles vont en penser. Donc c'est un travail très documenté, très documentaire, mais où finalement d'une certaine manière j'essaye de me mesurer un peu à pascaloper entre guillemets, puisque et ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que le procès ne s'est pas encore terminé. C'est très rare de faire un projet alors qu'un procès est en cours. Moi, je crois très fort qu'il ne s'agit pas de représenter le réel, que rien ne sert pour moi de représenter le réel puisqu'il est partout, mais de tenter de produire un équivalent du réel. Donc, je travaille plutôt sur du contre-espace, du contre-temps, et comment, à partir d'une manière documentaire, j'identifie les béances, les insuffisances du réel qui sont énormes dans ces questions-là, et notamment du côté judiciaire, je crois, qui a besoin de se remettre, mais quasiment intégralement en question pour pouvoir traiter ces affaires-là. C'est beaucoup trop lent, c'est beaucoup trop en retard. Enfin, la seule question du non-lieu comme une appellation non-lieu qui persiste dans l'inconscient collectif comme étant la possibilité d'innocenter quelqu'un est extrêmement problématique, par exemple, hein, c'est un exemple parmi beaucoup. Moi, je tente donc avec ce spectacle de répondre par un acte performatif à ce réel.
Pourquoi dites-vous que les images font écran, Lorraine de Sagazan, lorsque vous nous décrivez justement cette image d'une femme seule dans une décharge avec 160 hommes cagoulés qui l'entourent et qui lui font subir les sévices que l'on connaît, pourquoi est-ce au fond moins fort que ce qui peut surgir sur scène?
Alors cette image, elle est forte, mais dès qu'on arrive sur le terrain, je trouve, de la sexualité, là, il y a quelque chose, je crois, de ce conditionnement chez tout le monde, en fait, qui empêche de voir l'endroit de la violence. C'est-à-dire, c'est extrêmement difficile de pouvoir juger de ce qui est violent ou pas, à cause du conditionnement général. Et donc, en fait, je pense que nous, on a travaillé sur le verbatim de la vidéo, c'est-à-dire ce qui se dit dans cette scène-là, et non pas ce que l'on voit. En fait, c'est-à-dire, la vidéo n'est pas diffusée, j'aurais trouvé ça particulièrement complètement indécent de ma part de la diffuser. Mm-hmm. En revanche, je diffuse le texte qui défile. Il y a une manière aussi de confronter dans un face-à-face les spectateurs et les spectatrices à la pornographie telle qu'elle peut se diffuser régulièrement quand même. Enfin, je veux dire, ce sont des images pornographiques qui sont... alors aujourd'hui, la plateforme est fermée, mais on peut trouver quand même des images comme ça en libre service. Et donc, forcément, c'est quand même une espèce de DOPA complètement hallucinante parce que ça va produire du désir. C'est-à-dire, en fait, ce sont des vidéos devant lesquelles des milliers de personnes se masturbent devant des viols. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez hallucinant. Et donc, moi, je projette ce texte et je crois que ce texte-là ne permet pas de générer la moindre ambiguïté sur la violence des mots prononcés et de l'entreprise généralisée qui est celle de la guerre mondiale contre les femmes, la destruction des femmes qui existe depuis extrêmement longtemps et qui d'ailleurs n'a jamais connu de soulèvement. Moi, c'est une des questions que je pose dans le spectacle, c'est-à-dire pourquoi je n'ai jamais appris l'usage de la violence, pourquoi je ne suis jamais devenue terroriste, pourquoi en fait les terroristes que l'on a rencontrés de femmes qui ont pu exister ont toujours été reliés à des groupes d'hommes. Finalement, ne faisant jamais peur à l'oppresseur, il n'est pas question pour l'oppresseur de réduire son activité délétère. Et voilà, je pense qu'il y a une moitié de l'humanité qui a servi totalement l'autre par des biais plus ou moins détournés, que quelqu'un comme Pascal Oppé colonise la pornographie et la sexualité, en fait. Hein, c'est aussi un domaine qui est prédaté par des prédateurs qui créent des images qui vont ensuite produire du désir et avec lesquelles on va vivre toute la journée et que les faits divers, comme c'est souvent sont présentés ces affaires, font diversion par ailleurs.
Metteuse en scène donc plutôt que terroriste, Flore Thierry, cette notion de consentement, au-delà d'ailleurs de l'affaire French Bukkake dont on a bien cerné le sordide absolu, au-delà de cette affaire dans l'industrie de la pornographie, majoritaire ou non, cette notion de consentement est-elle possible? Des actrices peuvent-elles consentir de leur plein gré, d'une manière éclairée, à participer à un film pornographique?
Je pense que ça, c'est une bonne question sur la souveraineté de la femme. C'est-à-dire, si on considère que, et c'est ce qui est le cas de féministes plutôt pro-sexe, que les femmes sont assez matures pour décider par elles-mêmes ce qui est bon pour leur sexualité et si elles peuvent... D'ailleurs, la pornographie, c'est pas juste un homme et une femme qui ont un acte sexuel entre eux. Ça peut être aussi des femmes entre elles. Et ça peut être de plus en plus, et c'est le cas avec les plateformes comme Mime et OnlyFans, des femmes toute seule sur elle-même. Choisir librement d'avoir cet acte sexuel en contrepartie de l'argent et de le diffuser, que ce soit d'ailleurs de la pornographie payante ou de la pornographie d'exhib, gratuite, faite pour l'amusement, si on considère qu'elles sont à même de faire ce choix par elles-mêmes, là, oui, un consentement est possible. Aujourd'hui...
Mais la question est là, j'allais dire, structurellement, est-ce possible pour ces femmes, pour des femmes, j'allais dire, de faire ce choix libre, éclairé, par-delà la notion de chantage, par-delà aussi la notion parfois de besoin d'argent et plein d'autres facteurs?
Parce que, alors déjà, il y a des femmes qui le font gratuitement sans avoir besoin d'argent, parce que à la fois, va y avoir une gratification d'exhibition, parce qu'elles vont se montrer, parce qu'elles ont peut-être une sexualité très spéciale et qu'elles ont envie de la populariser, même si souvent, et c'est le cas, il y a aussi la question de l'argent qui rentre dans leur choix. Ce qu'il faut voir aussi, et par exemple, vous citez Nikita Bellucci. Nikita Bellucci, c'est aussi à cheval entre un métier qui est rémunérateur et un métier passion. C'est quelqu'un qui est passionné aussi par qui a un club libertin à Rouen et qui est passionné par ces questions-là et qui a à cœur vraiment pour elle de défendre ses valeurs, alors qu'elle considère comme féministe, c'est-à-dire montrer des femmes puissantes dans ses films, montrer que la femme, elle a le choix, montrer une autre sexualité qui contrecarre complètement celle de Pascal Oppé.
Pourtant, elle a fait tourner les acteurs de Pascal Oppé. Hein.
Je vais vous donner la parole, poursuivez.
Alors, je pense qu'il y a une différence entre faire tourner les acteurs de Pascal Oppé et cautionner...
Mis en examen pour viol.
Et cautionner des viols. Voilà, je vais mettre une nuance sur... Je ne prête pas et je ne pense pas prêter à Nikita Bellucci l'envie de cautionner des viols. Je pense que c'est de la diffamation de dire ça.
Ce que j'ai dit, c'est qu'elle faisait tourner... Elle a fait tourner dans un de ses films qu'elle a appelé Éthique, l'un des acteurs qui est aujourd'hui mis en examen, mis en accusation.
Donc sans le savoir.
Tout le monde le connaît dans le milieu.
Donc sans le savoir. Non, c'est de la diffamation. Mais c'est de la diffamation.
Finissez, Flore Thierry, et puis je vous donnerai la parole, Lorraine.
Donc sans le savoir. Et donc c'est cette réflexion que certaines femmes peuvent avoir, Nikita Bellucci étant la plus emblématique, mais il y en a d'autres. Je pense aussi à Little Angel, qui a commencé la pornographie, pareil, en rentrant dans le milieu du libertinage et qui aujourd'hui a sa propre boîte de production et fait des films par elle-même. qui montre aussi une narration qui est féminine pour une fois. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas plus aux mains des hommes le soin de montrer ce qu'est une scène de sexe. Les femmes s'emparent de plus en plus des moyens de production, grâce aussi aux méthodes d'ubérisation, et permettent ça. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut y consentir ou pas ? Si on estime qu'une femme de plus de 18 ans est assez adulte pour avoir un acte sexuel, peut-être qu'elle peut être aussi adulte pour monétiser ou non, le diffuser ou non, et évidemment que son consentement soit strictement respecté, ce qui était absolument pas le cas dans l'affaire French Cake.
Lorraine Castillo, je sens que vous êtes en large désaccord sur cette notion de consentement dans l'industrie, plus largement de la pornographie.
Disons que même le fait de poser cette simple question, pour moi, est assez révélateur d'un biais sexiste et raciste et classiste. Si vous voulez, vous avez d'un côté...
Le fait de poser la question sur le
consentement. De poser sempiternellement cette question de cette manière. On vient vous parler d'un fait social majeur, c'est-à-dire d'actes de torture extrêmement graves commis devant tout le monde, puisqu'il y a des millions de gens qui regardent ces vidéos. Je parle des vidéos de French Bukkake, mais je parle des autres, parce que l'immense majorité, et ça toutes les statistiques le disent, 80% de la pornographie contemporaine est consultée, représente en fait des violences faites aux femmes, et des violences racistes, et des violences classistes, et des violences LGBTophobes. Donc c'est-à-dire que la masse, c'est ça. Donc on a un constat, en fait, qu'on torture aujourd'hui des femmes, c'est-à-dire qu'on érotise des actes de guerre, des crimes de guerre, des viols de guerre, des actes de où les femmes sont lésionnées, c'est-à-dire on parle pas de films pornographiques monter. C'est-à-dire que la masse, c'est ça. Et la première question que les gens se posent, c'est pas pourquoi, comment se fait-il que cette société est capable de générer un tel produit sur des corps de femmes ? Comment on fait pour arrêter ce massacre ? C'est souvent l'industrie pornographique, avec des VRP qui viennent vous raconter qu'il y a 3-4 femmes de ici et là qui se disent heureuses de l'avoir fait et qui sont libres de consentir. Il faut savoir que chaque système...
Je me permets juste de défendre quand même ma question. Si je pose cette question, c'est simplement aussi pour vous permettre peut-être aussi de donner des réponses comme celle-ci. Et par ailleurs, pour participer aussi dans ce débat, dans cette discussion,
Vous voyez bien que déjà, le fait de s'interroger, de savoir s'il existe des personnes qui sont libres, qui peuvent consentir à subir des actes d'humiliation, c'est une question très intéressante, puisque c'est une question philosophique sur la liberté, sur qu'est-ce que la liberté. Est-ce qu'il peut y avoir de la liberté si on y a de l'inégalité ? Ça, c'est la thèse des féministes, c'est que s'il n'y a pas de rapport d'égalité, quand on est une situation asymétrique, de pouvoir, on ne peut pas librement consentir. Et en fait, on trouve dans l'histoire de l'humanité des gens qui consentent à tout. Vous avez le droit du travail, les luttes sociales notamment l'ont démontré, vous trouverez toujours un salarié qui acceptera de travailler pour 1 euro. Et c'est pas pour cette raison que cette personne est libre. En fait, il est dans des conditions matérielles qui font qu'il ne peut pas consentir. Dans une société où les femmes sont violées toutes les 6 minutes, où il y a des viols sur les enfants, où on parle de millénaires et de millénaires de viols, notre histoire, nous les femmes que nous partageons avec vous, qui est ma sœur, c'est le viol de guerre, le viol conjugal, les tortures intimes, les tortures politiques. Et donc ça, c'est la réalité historique, la réalité matérielle de la classe des femmes. Et on vient nous dire, la pornographie, est-ce qu'on peut consentir ? Est-ce que certaines de ces femmes, qui en plus en général cumulent l'oppression de classe, de race, de genre et de classe, consentent et sont bien heureuses parce qu'elles sont devenues un peu productrices et elles ont un club libertin, elles peuvent consentir à subir des actes
sexuels.
C'est absurde ! C'est totalement absurde ! Il faut arrêter cette question.
J'entends non seulement ce que vous dites et j'entends par ailleurs le bien fondé de votre raisonnement. Ouais. Je me permets juste de dire que j'estime que cette question n'est pas spécialement raciste, même si encore une fois,
c'est pas ce j'entendais. Je dis qu'il y a un biais.
Une réaction flanchérie. Après, j'aurais une question quand même sur la mise en scène.
Général sur la pornographie. Bon, déjà le chiffre qui est rappelé, qui est celui du 90%, qui est celui du Haut Comité à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il est basé sur une étude de 2010 sur 50 films.
C'est le comité directeur des droits de l'enfant du Conseil de l'Europe qui donne ce chiffre
sur les 80%.
97%, oui.
Et repris par ailleurs par le Sénat qui arrive à des chiffres similaires.
C'est le Conseil de l'Europe.
En tout cas,
c'est en 2025, les derniers chiffres du Comité pour les droits de l'enfant.
En tout cas, il y a effectivement une violence structurelle majeure dans les films pornographiques qui sont diffusés actuellement.
Sur 97%.
La majorité tout de même.
Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par violence ? Est-ce que c'est des pénétrations ? Qu'est-ce qu'une violence ?
Non, c'est des scènes où les femmes sont représentées comme inférieures, soumises, et c'est soit des violences physiques, violences verbales, et en fait, et d'ailleurs je peux vous lire la phrase parce que je l'ai ici, c'est ainsi qu'il est ressorti de l'analyse de 3435 séquences proposées sur les sites pornographiques les plus populaires. que 97% d'entre elles représentaient une agressivité qui s'exprimait à l'égard des femmes et qui, dans 93% des cas, réagissait de manière neutre, voire tirait du plaisir. Donc en fait, ce qu'on montre, c'est pas simplement de la violence contre les femmes, mais c'est des femmes qui aiment être violentées. Et c'est extrêmement grave.
Une question pour Lorraine de Sagazan. On l'a dit, le procès French Bukkake se poursuit. Des décisions de justice seront rendues dans les mois, dans les années qui viennent. Une vérité judiciaire sera établie. Comment menez-vous ce travail de fiction, de mise en scène en parallèle? Qu'est-ce que la fiction, là aussi, peut apporter? Comment vous l'articulez avec ce travail mené par la justice?
En fait, quand j'ai naïvement longtemps pensé que la justice cherchait la vérité. Et je me suis rendu compte à mes dépens, en étant moi-même au centre d'un problème judiciaire, que finalement il ne s'agissait que de vérité judiciaire, donc de narration. C'est une question de narration. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, moi c'est aussi...
La vérité judiciaire, c'est une narration? Expliquez-nous.
Ouais, c'est-à-dire en fait, la vérité, je pense que personne ne peut saisir l'exacte vérité. Enfin, je veux dire, en fait, le réel est beaucoup trop large pour l'esprit humain, pour pouvoir le saisir dans son intégralité. Donc en fait, je crois que ce dont la justice s'empare, c'est une affaire avec des outils qui sont souvent des outils techniques. Et je crois que là, vous posez la question du consentement, qui a été quand même une ce qu'on peut imaginer comme étant un projet récent, mais pas suffisant. Parce que je crois que si le non n'est pas protégé, alors le consentement peut advenir en toutes circonstances. Et pour la comparution immédiate sur laquelle j'ai travaillé avant, c'est le cas, puisque les gens acceptent d'être jugés en comparution immédiate sans savoir exactement quelles seront les conséquences. Donc ça, pour moi, c'est un sujet plutôt de réfléchir à la structure même qui permet à des corps de s'autoriser sur d'autres corps. Donc c'est à mon avis un sujet qui n'a vraiment rien à voir avec la sexualité. Moi, je crois en fait que c'est vraiment la prolongation d'un système capitaliste de domination qui s'exprime plus librement parce qu'il y a une vidéo, parce qu'il y a des spectateurs et qu'on peut être dissimulé par la fiction.
Sur, justement, encore une fois, les violences au sein de l'industrie pornographique. On sait bien que les spectateurs soumis au porno, il y a une forme d'addiction qui se crée structurellement, matériellement, même au travers des personnes, des jeunes hommes, souvent adolescents, qui regardent et qui ont une demande croissante pour des scènes de plus en plus violentes, pour des scènes de plus en plus dures, pour des scènes également de plus en plus crues. Flore Thierry, là aussi, cette donnée structurelle bien établie par l'ensemble des recherches sur le sujet, comment est-ce que on peut faire en sorte de créer un porno non violent au moment où toute la demande tend justement vers cette volonté?
Alors, on pourrait nuancer la volonté de chercher un porno de plus en plus violent, parce que là aussi, les chiffres vont pas forcément dans ce sens-là. Enfin, il n'y a pas vraiment de données qui disent...
Les chiffres montrent quand même bien une demande croissante par individu au fil de la consommation de pornographie qui augmente. Plus on consomme de pornographie,
plus
on est en recherche de scènes violentes.
La pornographie n'est pas nécessairement et pas structurellement, en tout cas pour moi, pour des réalisateurs qui le font et pour l'industrie, un territoire de violence. Ça reste un territoire où on peut représenter, dans lequel il est possible de représenter de la sexualité. Et j'insiste, une sexualité qui est libre, joyeuse, créative et jolie. Un porno n'est pas forcément un acte de sexe tarifé entre un homme et une femme. Aujourd'hui, on voit l'émergence d'un nouveau porno qui arrive avec notamment l'intelligence artificielle. Moi, je pense que c'est une belle opportunité de se servir de cet outil, de l'intelligence artificielle, pour représenter des désirs, des fantasmes, des idées de scénarios qui soient beaucoup plus créatifs que ceux qu'on peut avoir dans la vraie vie. On ne se pose plus la condition des tournages dans lesquels on est et on se repose la question de qu'est-ce qu'on veut demain sur cette pornographie. Évidemment, mettre peut-être des limites sur certains fantasmes, ne pas tout représenter, ne pas céder à une demande de violence, à une demande de voir des fantasmes qui sont illégaux, et au contraire d'essayer de travailler une forme de créativité. Moi, j'ai l'impression que l'industrie, elle évolue dans ce sens-là, avec une responsabilité, une maturité, à la fois sur les conditions de tournage, mais aussi dans la façon de représenter les désirs, qui va plutôt dans le bon sens.
Même si l'intelligence artificielle, pour l'instant, ça sert plutôt à déshabiller des femmes sans leur consentement. Lorraine Questio, j'allais dire aussi sur cette notion de porno éthique. Est-ce que c'est là aussi, est-ce que c'est une notion extrêmement biaisée, voire raciste?
Ah oui, je suis absolument d'accord.
Non, mais en fait, je vous tends le bâton cette fois.
Non, mais le porno éthique, c'est un mythe total, c'est un serpent de mer. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne vise que à essayer précisément de protéger l'industrie qui est la pornographie, qui génère de l'argent. Dès lors qu'on parle d'une industrie qui génère de l'argent, ça veut dire que l'industrie, elle est soumise à la loi du marché. La loi du marché, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, on est dans une société, je pense que personne ne l'ignore, qui est de plus en plus radicalisée et fasciste. Et donc, vous vous doutez bien que la demande, ce sera ça. D'ailleurs, les sites porno eux-mêmes, les grands sites porno pornographiques qui sont des méga plateformes qui sont extrêmement consultées, des millions de consommateurs, font le classement des mots-clés qui sont les plus recherchés.
En France, hein.
En France, je parle uniquement en France. Et en France, donc 17 millions de consommateurs adultes, 5,5 millions d'enfants, hein, déjà. Et les vidéos les plus recherchées, c'est arabe, salope, viol et beurette. Je pense que ça suffit à dire, on va la demande où elle ira. La demande, elle est toujours vers les vidéos les plus obscènes. Moi, je vous ai pris quelques petites vidéos que... petit titre facile à trouver sur un grand site Xhamster, qui est l'une des plus grosses plateformes. Je parle pas de quelque chose de confidentiel, hein. C'est « Camp nazi prison ». Prisonnière juive se fait défoncer la cervelle. Petite soumise juive arabe étudiante. Arabe voilée. Crying torture painful, donc femme qui pleure sous la torture. Petite fille violée. Voilà. Et c'est des millions et des millions de vues. Ça, c'est la réalité. Donc moi, et ça, c'est la demande des hommes. Et on le sait, nous vivons dans une société inégalitaire où les violences sexuelles sont massives. Et je pense que c'est complètement, un mensonge total et un mensonge avec des conséquences gravissimes pour mes clientes, pour toutes les femmes que nous sommes et même pour les hommes, que de continuer à essayer de protéger une industrie pornographique qui a généré des millions et des millions depuis le début, puisque dès les années 80, les sociétés pornographiques faisaient déjà de l'argent sur la pédocriminalité, le racisme et le sexisme.
Et malgré tout, Lorraine de Sagazan, dans ce chaos, dans cette dévastation, et sur scène, vous parvenez à distiller des traits d'humour, des moments plus légers, de la musique aussi. Alors cette question là aussi de la mise à distance par la représentation, par la forme, comment est-ce que vous l'avez pensé et imaginé en amont ?
Alors la musique, oui, elle est au centre puisque j'ai prosodié deux cantates de Bach. Donc le spectacle est quasiment intégralement musical. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, le rapprochement qui peut parfois sembler peut-être étrange, c'est celle du sacrifice. C'est-à-dire, je trouve que dans l'héritage mythologique, qu'il soit religieux ou mythologique plus général ou historique, la question des martyrs, la question des corps, la douleur, l'excitation par la douleur, l'excitation par une position d'être légèrement morte, comme on le voit aussi à travers beaucoup de personnages féminins de l'histoire et qu'on retrouve aussi beaucoup dans la pornographie, est vraiment au centre. Et moi, en assistant en tout cas aux vidéos de cette plateforme French Bukkake, j'avais l'impression qu'il s'agissait véritablement d'un sacrifice, c'est-à-dire d'une fraternité entre les hommes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout de la femme et même d'un acte désirant. Je crois, moi, très fort que dans ces vidéos, la femme n'est pas désirée, qu'elle n'est qu'un déchet pour pouvoir assouvir une fraternité, une sensation de force, une performance, et qui a même plus à voir avec un acte homo-érotique d'ailleurs, qui ne dit pas son nom et qui ne s'assume pas, qu'un acte vraiment de désir sexuel.
Lorraine Questiot lève le doigt et dit bravo, je transmets l'information pour les auditeurs. Lorraine de Sagazan.
Et donc pour moi, cette musique de Bach, c'est-à-dire cette musique de messe, cette musique sacrée, cette cérémonie, etc., du sacrifice, j'ai voulu la mettre en évidence. Les premières phrases, je crois, d'un des chants, c'est « Nous allons au combat, guerre qui ne dit pas son nom, c'est le combat le plus long, c'est en cadavre que tu m'aimes ». Voilà, j'ai prosodié, je crois aussi qu'à travers le chant, enfin pour moi le chant c'est vraiment aussi comme une sublimation d'un cri, c'est-à-dire je crois aussi que toutes ces histoires, le fait d'en parler, nous ne le recevons plus par la parole. Donc il fallait une autre forme pour que l'on puisse entendre ces histoires, ces témoignages, recevoir ces images d'une autre manière. C'est-à-dire, en fait, j'ai voulu aussi créer une narration de rupture, comme je crois qu'il faut employer les moyens de la rupture à tout égard pour pouvoir parler de ces choses-là, pour pouvoir faire entendre ce qui a du mal à être entendu. Après, l'humour, alors ça, c'est l'humour...
C'est de l'humour contenu, mais il y a quand même une mise à distance par ce touchement-là.
Déjà, moi, je crois très fort. Ouais, alors je crois plusieurs choses. Très fort au pouvoir subversif du rire, ça, c'est une vraie chose. C'est-à-dire, le rire n'est pas juste un divertissement. De grands auteurs auteurs comme Brecht, enfin, je veux dire, ont parlé de l'ascension du fascisme par le rire, par la bouffonnerie. Donc il y a de la bouffonnerie en effet sur scène. C'est une manière de dévitaliser aussi ces hommes-là, en fait, de les tourner en ridicule, c'est-à-dire d'inverser aussi ce qui peut paraître fascinant, désirable, etc. Mais aussi c'est un rire un peu gênant qui pose la question. Et d'ailleurs l'esthétisme général du spectacle pose cette question. Pourquoi est-ce que je suis en train d'avoir du plaisir avec ce que je regarde? Est-ce que je suis en train de rire de ce que je regarde? Est-ce que j'accepte ce que je regarde? À quel moment, en fait, alors aussi protéger les gens, c'est-à-dire leur permettre de supporter le spectacle qui est par ailleurs très très lourd, faire des respirations un petit peu à certains moments. Mais par ailleurs, cette chose-là, elle se retourne aussi à la fin du spectacle puisque je pose la question de qui a la possibilité de rire et qui a la liberté de rire, en fait, face à ces sujets-là. Et qu'il y a là une grande différence entre les corps, encore une fois, ceux qui s'autorisent à prendre et ceux qui sont condamnés à subir.
La question qui va de soi, j'allais dire, après cette discussion, ce débat, je vous la pose en premier, Flore Thierry. L'idée d'abolir le porno, d'abolir l'industrie pornographique, les images qu'elle produit et le système qu'elle permet, est-ce que pour vous c'est une idée possible, plausible, qui mérite au moins d'être posée ?
Bah, vous venez de la poser, donc elle peut l'être en tout cas.
Je
parlerai des pornographies et je morcellerai les pornographies. C'est un espace, la pornographie, qui met en scène nos intimités et donc c'est un espace qui par définition a besoin d'être régulé d'urgence parce que ça peut engendrer, comme vous l'avez dit, des viols, des violences, des situations qui sont très dangereuses pour la sécurité de chacun et pour la vie sociale ensuite. Donc c'est des espaces qui ont besoin d'être régulés. Maintenant, il y a des pornographies. Ça peut être en effet des films de sexe et de sexualité, ça peut être du dessin, ça peut être des personnes qui ont des activités sexuelles sur elles-mêmes, ça peut être du texte, ça peut être plein de choses qui sont très différentes. Et je pense que chacun doit avoir un regard et que les partis politiques devraient se prononcer sur qu'est-ce qui est intéressant ou pas, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, comment est-ce qu'on a le droit de le faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Interdire ne me semble pas être la meilleure des façons de régler cette problématique qui est qu'on a besoin et qu'on a envie et qu'on désire avoir une sexualité créative, épanouissante, et que résumer un acte sexuel filmé à une violence ou une humiliation, ce qui est peut-être ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est aussi empêcher les femmes de se raconter autre chose sur leur sexualité, qui est, oui, une pénétration, ça peut être beau, oui, un orgasme, un acte sexuel, ça peut être quelque chose de joyeux, et oui, ça peut être vécu comme quelque chose qui doit être célébré, et pas comme quelque chose qu'on doit censurer, mettre sous une cloche, et surtout dire, oh là là, c'est sale, c'est violent, surtout, ne va jamais t'amuser dans la sexualité.
En miroir, Lorraine Questio, l'abolition ?
Ben, déjà pour rebondir, pour moi c'est l'industrie pornographique qui a exproprié les imaginaires de toute cette possibilité justement d'avoir une sexualité créative, heureuse, joyeuse, réciproquement désirée. C'est en imposant cette norme monolithique hein, de la haine des femmes, de la soumission, de la torture, de la violence de la femme qui jouit à être humiliée et tout ça que précisément aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a autant de violences sexuelles et que les femmes malheureusement sont très malheureuses et les hommes d'ailleurs aussi dans leur sexualité, c'est les sondages qui le montrent, hein. Il y a quand même ce paradoxe, nos générations, celles d'avant, celles d'après, sont inondées de pornographie et en réalité, on s'en rend compte aujourd'hui dans nos sociétés, on a abrogé hier le devoir conjugal, les viols conjugaux sont pléthoriques et donc en fait, on est dans une société en fait où la sexualité, on ne sait même pas ce que c'est et la pornographie continue à extorquer les gens, les hommes, les femmes, tout le monde, de ce droit fondamental à l'érotisme, au bonheur et au plaisir.
L'abolition
donc,
en une minute.
Et donc l'abolition de la pornographie. Pour moi, elle est déjà interdite la pornographie en fait. On dit qu'elle n'est pas régulée. Bien sûr qu'elle est régulée. Elle est régulée par le code pénal. En fait, on n'a pas le droit de produire des contenus qui sont sexistes, racistes, discriminants. Donc déjà, ça vous enlève 95% de la pornographie. Il ne resterait plus rien. Et ensuite, évidemment, comme c'est du proxénétisme, puisque l'argent est une contrainte et une pénétration sexuelle sous contrainte, vous connaissez, c'est la définition du viol. Donc tout est interdit dans la pornographie, sauf peut-être le film entre deux concubins ou deux amoureux ou deux personnes, deux compagnons sexuels qui décident de se filmer et de se le diffuser à eux-mêmes. Mais ça n'existe pas. C'est pas l'industrie, ça.
Merci beaucoup à toutes les trois de ces propos forts à chaque fois, rudes parfois. Merci en tous les cas, Lorraine de Sagazan. Je redonne le titre de cette pièce Chien au pluriel que vous mettez en scène au Théâtre des Bouffes du Nord du 29 janvier au 15 février. Une pièce qui sera par ailleurs en tournée en France d'ici la fin de l'année. Lorraine Questio, avocate au barreau de Paris et avocate de plusieurs parties civiles au procès French Bukkake. Et Flore Thierry, journaliste pour le site porno érotique. thérapeutique Union et spécialiste de la sexualité. Vous êtes l'autrice du livre intitulé Au cœur du féminin sacré qui a paru en octobre aux éditions de l'Observatoire. Merci également à celles et ceux qui ont pensé, imaginé cette émission à mes côtés. Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancey, Antoine Héral. Ce soir à la réalisation, c'était Camille Mathy et Nicolas Leroulet à la technique.